surtout quand il est l'heure de LEM, l'émission quotidienne de Transistor. C'est du lundi au vendredi. Il y aura encore du son transformé en image aujourd'hui avec de la pierre dedans et puis aussi un salon.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui vous fait tourner les pages du grand livre du Finistère. Et aujourd'hui, c'est une émission digne du Géoparc d'Armorique dans lequel votre radio est installée. Et oui, il y a aussi de l'art dedans, l'art photographique. Mais comment est-ce possible? Par la magie de Serge Kergouat, notre invité, qui est lui-même, vous le savez, il est photographe, ornithologue. Cette fois, il devient plutôt éditeur. S'il est question d'un élément naturel, il est non vivant. Il s'agit de roches. Les roches, c'est beau aussi. Les éditions Serge Kergouat présentent donc « Pierre, songe et rivage », un livre signé Raphaël Salzedo, qui est photographe aussi, qui a des liens avec la presqu'île de Crozon, qui vient chez nous dès qu'il peut. Aujourd'hui, il n'a pas pu parce qu'il est en train de devenir grand-père. Il a donc une bonne raison, mais Serge va tout nous dire. Bonjour Serge.
Bonjour Véronique.
Et on va commencer donc par ce livre absolument magnifique. C'est un peu une nouveauté pour les éditions Serge Kergouat. D'habitude, c'est des oiseaux hein, dans les éditions, c'est ça?
Ben oui, on ne fait pas que des oiseaux, mais quand Raphaël... m'a proposé d'éditer ce livre.
On ne peut pas refuser.
Parce que je trouvais que c'était vraiment... ça défie l'entendement, on va dire comme ça, que des pierres, avec le temps, les millions d'années, arrivent à... Quand on les polie et qu'on les coupe, qu'on arrive à avoir des paysages qui...
On va en parler plus en détail. Parce que vraiment, c'est totalement étonnant. Déjà, on va quand même présenter Raphaël Salzedo. Qui est-il? Il est photographe, mais plutôt photojournaliste, enfin photoreporter, c'est ça? Sa carrière, c'était surtout de travailler pour des magazines de géographie, c'est ça?
Oui, c'est... Bon, il a une carrière un peu parisienne. Il a beaucoup travaillé aussi autour de la Corse. Moi je le connais depuis un certain nombre d'années puisqu'on se retrouve de temps en temps dans les bars où on va prendre un café et puis il est parfois par là avec on a des amis communs et donc
Il vient à Crozon régulièrement.
Je l'ai retrouvé aux Trois Métiers en fait où il exposait
la maison donc, des Trois Métiers.
Des Trois Métiers et c'est là que j'ai découvert ces photos.
Donc c'était déjà une exposition de ces pierres-là,
ouais.
Des photos qu'il prenait. Et lui-même, comment est-ce qu'il a découvert ces roches? Qu'est-ce que c'est comme roche déjà?
Il y a différents matériaux. Hein. Il y a des agates. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'agates. Mais moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est comment on peut savoir ce qu'on va trouver à l'intérieur d'un bloc de pierre, parce qu'il s'agit de ça. Et donc, les deux personnes qui sont à l'origine de cette accumulation de pierres, parce qu'il y a deux collectionneurs qui ont un peu... En gros, il y avait une collection de 1400 pierres.
D'accord. Donc c'était quoi, des marbres plutôt, non?
Après, moi je ne suis pas un expert en géologie. Mais bon, c'est beaucoup d'agates, hein. C'est beaucoup de ce type de pierres qu'ils ont collecté.
Ces collectionneurs, c'était qui juste pour
Roger Caillois.
Donc il est connu pour ses écrits plutôt, ses essais.
Voilà.
Ouais.
Et puis Monsieur Boulet.
Claude Boulet. Ouais, qui est un photographe lui pour le coup, non?
Non, c'est aussi un collectionneur. Hein, donc c'est plus que le collectionneur, c'est lui qui a été chercher un peu les pierres.
C'est ça, voilà. C'est vraiment lui qui est allé chercher donc ces pierres qui étaient déjà polies ou alors c'est lui qui les faisait polir?
Ben non, on voit l'outillage à l'arrière du livre, là, l'espèce d'énorme disque avec des diamants dedans qui coupent les pierres. Et ben qui après, c'est vrai, quand c'est poli, tout ça, ça donne ces... C'est comment dire, c'est
pas des paysages.
Ces paysages, voilà. Qui sont, enfin, moi, j'ai pas de mots. J'ai peu de mots pour définir ça, tellement c'est complètement extraordinaire.
Bah, ouais. Voilà, c'est... Donc et on quand coupe on la pierre, les... voilà. Ouais. Et tout à coup, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Alors pas tout le temps, j'imagine. Hein, ils ont gardé que les meilleurs. Ouais. Mais on a apparaît. Alors vraiment, il faut décrire ces paysages parce que si le livre s'appelle Pierre, songe et rivage, c'est parce qu'il y a beaucoup de paysages qui évoquent en effet le bord de mer.
Voilà.
Donc, oui, une vague géante, enfin j'ai sous les yeux quelque chose qui pourrait s'apparenter à une vague géante. Sinon il y a beaucoup de falaises.
Oui, oui.
Avec de la plage et
châteaux,
puis de la mer.
Des vieilles cités.
Oui, parfois voilà. Il y a même des bateaux qui partent au loin.
Voilà,
enfin, il me semble.
Il y a des bateaux qui.
Il y a des oiseaux qui volent dans le ciel. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Il y en a même une. Il y a même une photo donc de toujours ces pierres coupées là, on coupe qui. On dirait qu'elle a été prise depuis une grotte de Morgate, hein. On pourrait dire ça, je ne sais plus, elle est à peu près au centre du livre, je crois. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et elles n'ont pas été colorées, hein, on est d'accord.
Ah non,
c'est
non,
les couleurs naturelles.
Ouais, ce sont complètement les couleurs naturelles, et c'est ce que précise Raphaël, c'est qu'il dit qu'il n'y a aucun trucage, il n'a pas fait de trucage, c'est juste l'œil humain qui sélectionne un endroit de ces pierres. Et c'est ce qu'il a fait lui, et en macro, il arrive à... Ben, il cadre et puis il obtient ces morceaux qui sont de véritables tableaux, il n'y a pas d'autres mots.
Donc ça peut être très petit, enfin, on est d'accord, ça peut être des détails hein, par rapport à l'ensemble de la pierre.
Hein. Voilà,
après, c'est pas forcément une gigantesque pierre de 1m50
voilà.
Non, d'accord.
Ou dans une pierre, on peut aussi trouver peut-être plusieurs morceaux qui peuvent être intéressants.
Oui.
Mais c'est vrai que on parlait tout à l'heure, tu parlais des marbres. Mmh. Il y a beaucoup de... Enfin, moi, je me souviens, quand je faisais mes études d'art plastique à Rennes, de m'être intéressé à cette partie-là, qui était les carrières de marbre, pour assembler dans certaines parties d'églises ou des hôtels. Ils coupaient des feuilles de marbre et ils les assemblaient de façon symétrique pour obtenir des effets qui étaient assez surprenants. Et ça m'avait déjà fasciné à l'époque. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est vraiment...
Il y a même des pins maritimes. À un moment, on voit on pourrait se croire en train de se promener là sur, je sais pas, au Cap de la Chèvre. Enfin, pas loin, quoi. Sur le bord d'un sentier littoral du Finistère. Et puis, avec les pins maritimes dessinés par... alors là, c'est un géologue qui pourrait nous expliquer exactement comment ces motifs se sont formés, par quels sont les minéraux qui ont formé ces motifs. Dans le livre, il n'y a pas de parti pris géologique. Hein. C'est purement artistique. C'est le regard du photographe, quoi. C'est ça. Et lui, Raphaël Salzedo, il fait ça depuis longtemps, type de photo.
Il explique, bon, il a fait beaucoup d'autres photos, et puis c'est vraiment un photographe professionnel et qui a travaillé sur, on va dire, sur plusieurs endroits, du côté de la Gironde, du côté de la Corse. Enfin bon, il a une carrière complète là-dessus, mais oui, il explique hein, dans le livre que c'est en rentrant d'un tour du monde qu'il a fait à la voile, qu'il est revenu sur Paris et qu'il a, en déambulant dans les rues, il est tombé par hasard. C'est là qu'on dit que le hasard fait bien les choses. Et qu'il a poussé la porte de cet atelier-galerie et dans lequel il a découvert ses pierres. Il s'est lié d'amitié avec... Le monsieur qui tenait la galerie et puis qui lui a à ce moment-là ouvert ses collections et puis il venait régulièrement photographier les différentes pierres parce que ça a dû se faire sur quelques mois ou quelques années.
C'est ça. Quoi. Oui, parce que les pierres qu'on voit là n'appartiennent pas spécialement à Raphaël Salzedo.
Ah non,
il
n'en
a pas acheté pour autant,
non,
lui.
Non,
d'accord.
Non. Mmh. Ça, je ne sais pas s'il en a peut-être.
Il pourrait peut-être continuer. Enfin, il y a peut-être des nouvelles pierres qu'on peut polir.
Il avait fait un livre précédent sur l'Apocalypse. Sur un côté un peu plus feu, là on est plutôt dans le côté aquatique et lui il avait fait une autre partie sur la partie incandescence, enfin, voilà. Et
on peut voir des incendies aussi dans ces pierres, alors.
Voilà, ouais,
pas seulement des rivages.
Ouais, ouais.
D'accord. Et bah, d'ailleurs, si les gens sont à Paris et qui s'intéressent à ce sujet, il y a une exposition, en fait, justement, à voir en ce moment, qui s'appelle « Rêverie de pierre, poésie et minéraux » de Roger Caillois. Et on peut la voir jusqu'à fin mars à l'école des arts joailliers, justement, dans le 9e arrondissement. Et c'est en lien avec le Muséum national d'histoire naturelle. Donc là, j'imagine qu'on a peut-être des explications géologiques sur pourquoi ça donne ces motifs-là, ces pierres. Mais voilà. Bon, ben, donc là, le livre « Pierre, songe, rivage » de Raphaël Salcedo, c'est paru aux éditions Serge Kergouat, hein, voilà. Et ça coûte 35 euros, mais franchement, ça les vaut. Enfin, c'est un livre qui a demandé beaucoup de travail, hein. C'est ça aussi. Hein.
Oui, et puis il y a un coût de fabrication. Alors, on le sait, parce qu'on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai plus de distributeur, donc mon distributeur, c'était la Cop Brest.
Bah oui.
Donc, j'étais obligé de revoir ma ligne éditoriale. Donc, je ne tire plus les livres qu'à 500 exemplaires. Donc, j'ai un coût de production qui est évidemment... plus élevé, et du coup ça limite un petit peu le champ d'action, et notamment l'exposition dont tu parlais tout à l'heure sur Paris. Bah, j'ai eu le centre, puisque Raphaël y était allé, ils m'ont appelé et puis ils voulaient le livre, mais ils voulaient que j'aie un distributeur.
J'ai pas
improvisé un bon distributeur du jour au lendemain. Et du coup, c'est un peu... Moi, je trouve ça un peu idiot, ils ont pas le livre, alors
bah ouais.
que c'est complètement
oui.
dans le sujet. Quoi.
Et comment est-ce qu'on peut se le procurer ici? On va à la galerie à Camaret, à la galerie de Serge, mais à part ça, dans les librairies locales peut-être?
Dans les librairies, oui, dans les librairies locales. Donc il est pour le moment placé sur Crozon. Je vais venir ici au Fou pour le placer, mais on va attendre que le salon du livre...
Oui, c'est ça. Et donc Raphaël Salcedo sera présent au salon du livre, c'est ça? Il pourra répondre à toutes les questions.
Oui, tout à fait. Et puis donc il dédicacera le livre ce jour-là. Et bon, j'espère que ça va stimuler la curiosité des gens, parce que ça vaut vraiment le coup. Enfin, ceux qui ont vu l'exposition aux trois métiers le savent déjà, mais voilà, là, il y a...
C'était quand cette exposition à la Maison des trois métiers?
C'était au mois d'octobre, de mémoire.
Ah oui, c'est récent, donc j'allais demander s'il n'y aurait pas une nouvelle exposition, mais c'est pas prévu pour l'instant de photos.
C'est vrai qu'il va falloir qu'on accompagne le livre,
oui.
parce que le réseau national qui... Bon, après, on peut discuter, c'est pas le but de l'émission, mais il y a quand même... nous, on est un peu orphelins sans distributeur. On va continuer à éditer des livres, parce que là, ce sera... Cette année, on en fera encore 3, au moins. Et mais voilà, c'est vrai que la culture et le livre sont intimement liés. Et s'il n'y a pas de distributeur qui a un engagement culturel régional, c'est compliqué.
C'est
quoi.
Ça. Donc il faudra créer des événements pour faire connaître le livre.
C'est nous ce qu'on fait depuis déjà de nombreuses années.
C'est ça. Et bien là, donc, déjà, on fait une émission de radio, sur Transistor, bien sûr. Et donc, je rappelle le titre, Pierre, songe et rivage. Le salon du livre, justement, il y en a un qui se profile à l'horizon très bientôt, c'est aussi pour ça que Serge est là, c'est le salon du livre de Camaret, et ça se passe dimanche. J'ai l'impression qu'il y a plus d'auteurs que d'habitude, auteurs et autrices, non? Je me trompe?
Ouais, on va dire que par rapport à l'année dernière, il doit y avoir 2 ou 3 de plus. C'est vrai que, bon, par exemple, sur notre stand, on sera 3. Donc, il y aura donc Raphaël Salcedo, il y aura moi, et en dehors de Nicole, qui effectivement s'occupe du salon et qui ne sera peut-être pas beaucoup disponible sur notre stand. Et puis, on devrait, j'espère qu'elle sera dispo, on a François Zéron qui avait sorti un livre sur la numérologie il y a quelques semaines, quelques mois même.
Et là, sinon, les livres ornithologiques, enfin peut-être pas ornithologiques, qui seront présentés, ça sera quoi à cette occasion?
Notre dernier livre, Autre regard sur les oiseaux, et puis toute notre collection, les oiseaux de mer, les oiseaux de jardin de Bretagne, enfin tout ce qu'on a pu faire ces derniers temps seront présentés. Et on aura aussi le livre d'Ilsenel qu'on a présenté aussi.
Il faut redire un petit mot de Ilsenel.
Oui.
Ouais, alors c'est une peintre, hein, c'est ça
Oui, c'est une artiste allemande, et sur l'affiche... J'ai un petit peu voulu lui faire un petit clin d'œil sur, en mettant son dessin sur notre affiche. Voilà, parce que...
Donc elle habitait à Cameray, hein, c'est ça ?
Oui, elle est décédée en 2006. Donc ça fait déjà une vingtaine d'années, mais donc on a sorti le livre dernièrement sur son travail. Et puis ben là, on va essayer de monter une exposition cette année pour présenter son travail. Mais bon, il va falloir qu'on fasse une petite collecte de fonds pour l'encadrement, parce que 40 cadres, ça fait quand même une somme de pas loin de 2000 euros. Quoi.
Ah oui ! Ah oui, donc il y a 40, enfin elle a fait plus que 40 œuvres, j'imagine, mais il y a une sélection.
Voilà.
Ouais. Elle est déjà faite, la sélection de ces
œuvres. Elle est en cours. Ouais.
C'est en gros ce qu'on a vu dans le livre aussi, peut-être.
Non. On va essayer d'être plus large, parce qu'elle a peint à Paris, elle a peint en Normandie, elle a peint en Bretagne. Donc on va essayer de présenter au moins un panel représentant la presqu'île au moins déjà, quoi.
Et est-ce qu'il y a d'autres livres sur les oiseaux en préparation, sinon
Je ne sais pas encore, parce que c'est vrai que bon, on a beaucoup d'activités ces derniers temps. Et puis, bon, pour le moment, le livre de Raphaël, il faut qu'on s'en occupe, parce que c'est quand même au niveau budget, on a un peu cassé notre tirelire. Là.
C'est ça.
Donc, voilà, on a voulu faire un beau livre. Et puis, bon, ben maintenant, il va falloir qu'on le porte un petit peu, quelques mois, comme.
Oui, c'est ça. Mais bon, ce salon est là pour ça. Alors, ben, il nous reste une dizaine de minutes pour en parler. Alors, allons-y, hein, parlons de ce salon, des gens qui seront présents. Alors, et on peut procéder par thème. Il y a de la littérature.
Oui, on a de la littérature, parce que donc on a un certain nombre d'auteurs qui vont présenter des textes un petit peu différents. On a des poètes, hein, on a... quelqu'un que j'aime bien, c'est Jean-Albert Guelnégan, qui est un poète de l'Andivisio, avec lequel j'avais fait il y a quelque temps un article sur Saint-Paul-Roux.
Saint-Paul-Roux, alors. Ouais. Saint-Paul-Roux, il faut peut-être rappeler qui c'est, même si... il avait un manoir dont on voit encore des vestiges depuis la plage de
Pénade.
Oui, c'est ça, moi je ne me rappelle jamais de son nom. C'était un poète aussi, c'est ça ?
Oui.
Il a vécu quoi, au début du XXe siècle ?
Bah, il est mort le 22 ou 23 juin 1940.
Oui. Et donc, vous aviez fait un livre en commun ? Non, un travail en commun avec Jean-Albert Guelnégan ?
Non, Jean-Albert m'avait demandé d'écrire un petit article sur Saint-Paul-Roux. Et donc, j'ai écrit ce que je ressentais, parce que bon, comme je dessinais beaucoup sur place à l'époque, et que donc je restais des heures et des heures assis à un endroit pour représenter ce que je ressentais, vous voyez. Et je vais régulièrement la ruine du château de Saint-Paul-Roux dans mon point de mire, et puis à chaque fois c'était comme une espèce de mécanique qui se mettait en route en disant mais qui pouvait habiter là.
C'est vrai que c'est, même si c'est que des ruines, on voit quand même des petites tours qui restent là, enfin on se demande, c'était un bâtiment sans doute assez extravagant,
voilà,
mais ouais. Ah, il avait bien choisi son endroit, hein, ceci dit.
Bah oui, mais...
C'était très romantique.
Je vais pas rentrer là-dedans, ça va se faire demander une émission complète, mais moi, ce qui m'interpellait, c'est, je suis très sensible à ça, aux ondes et aux forces que l'on trouve dans la roche. Et, franchement, moi, j'aurais jamais habité là.
Ah ouais. Trop puissant.
C'est trop puissant.
Bah oui, c'est sûr que.
Donc.
Ça l'a rendu dépressif, peut-être.
Ça, je sais pas, mais c'est vrai que personnellement, quand j'étais là, et quand tu dessines déjà, et que tu restes là des heures, notamment quand tu regardes Porzneil, donc tu étais pas loin du château de Saint-Paul-Roux, soit il est dans ton dos, soit suivant comment tu es positionné, et tu. T'es là assis, tu restes et tu sens ces espèces de vibrations qui est là. Et même quand t'es dans un exercice relativement simple de dessin et de représentation, t'es obligé de mettre des espèces de pare-feu parce que tu, tu sens comme une agression.
Il y a les éléments déjà, du vent tout le temps, du bruit tout le temps, des vagues. Enfin voilà, c'est bon. Après lui, il était dans son manoir, donc il était peut-être pas tout le temps exposé. Mais ouais, d'accord. Donc il y aura de la littérature à ce salon. Il y aura aussi des fictions qu'on classe pas forcément dans la littérature, mais qui en seront aussi des romanciers, du fantastique, c'est ça. Pas que de la poésie, quoi.
Par exemple, si on prend Gilles Millinaire, il a écrit un livre sur, l'après-montée des eaux. Et donc, l'île de Sein a été couverte d'un dôme et l'eau est montée et il reste... cette
une île... dystopie, c'est ça ?
Ouais, c'est assez étonnant.
C'est de la science-fiction, si on veut. Enfin, sorte d'anticipation.
Voilà. Et donc, ils vont sortir cette coupole parce qu'elle est en panne et que s'ils font rien, ça va exploser.
Ah oui, d'accord. Mais c'est une série. Il y a plusieurs.
Moi, j'ai lu le premier tome et j'attends avec hâte le deuxième.
C'est
donc,
ça.
Voilà.
D'accord. Ouais, oui, d'ailleurs, on a reçu récemment Renaud Maric qui sera là aussi. Lui, il est plus dans le polar en ce moment, non ? Ou il est dans le polar fantastique, c'est ça ?
Oui, il s'adresse aux adolescents.
Oui. Ah oui, parce qu'il y a de la littérature jeunesse aussi au Salon du Livre de
Cabaret. Oui, tout à fait.
Il y a combien de représentants de la littérature jeunesse ?
On a le Floc Sophie qui fait des livres pour enfants bien superbement illustrés. On a donc Marie Grenot. On a Lulu Moisan, qui est quelqu'un aussi qui est du Sud Finistère. On a...
Sandarty, elle fait Sandarty certains livres aussi, pour les enfants. Oui. On l'a déjà reçu aussi, même si elle ne fait pas que ça.
Michael Soutif.
Qu'est-ce qu'il fait, Michael Soutif ?
Donc lui, il travaille avec de... le mot, c'est pas de la pâte à modeler, mais c'est des pâtes de couleur avec lesquelles il crée des personnages, il crée des décors, c'est vraiment un superbe travail. Et il expose à Cabaret tous les étés à la galerie la géographie, donc il présente son travail. Là, ils sont à 4 ou 5 artistes, c'est anciennement Galerie du Solex.
Là, j'avoue que je ne la connais pas, j'avoue. Il y a aussi énormément d'historiens, alors je ne sais pas si c'est la Presqu'île qui fait ça, mais...
Oui, mais alors là, c'est aussi un petit peu... On pouvait ne pas mettre les auteurs, puisque c'est la revue Avel Gornok.
Ah, mais c'est ça.
Donc voilà, donc les différents intervenants sont dans...
Ils sont assez nombreux, Et en fait, Avel Gornok, c'est quoi ? C'est une publication une fois par an, c'est ça ?
Oui,
à peu
normalement,
près
ça dépend d'après de leur capacité de production d'un ouvrage, et comme c'est très documenté.
C'est ça. Ouais. Et c'est de l'histoire locale. Et là, la dernière, elle est consacrée à quoi ?
Normalement, c'était sur la Presqu'île, toujours, de Crozon, c'est autour de Crozon. Mais
il y a un thème, non ?
Je ne sais même pas, parce qu'elle n'est pas sortie, en fait. Elle devait sortir au mois de juin, juillet, et elle n'est pas sortie.
Et elle sera sortie pour le salon, de dimanche ?
Je ne sais pas, j'espère.
C'est pas sûr. In extremis, peut-être. Ouais. De la sociologie aussi, tiens. Ça, c'est peut-être plus rare, la sociologie.
Oui, c'est Anne Guillou.
Qu'est-ce qu'elle a proposé ?
Je ne sais pas exactement les prochains livres qu'elle va sortir, mais on la suit depuis un certain nombre d'années. Elle avait fait sur l'équipe de Lampol Guimillot, les ouvriers des abattoirs GAD.
D'accord.
Donc, elle avait fait un travail là-dessus. Elle a fait un travail sur Madagascar. Elle a différents thèmes qu'elle propose au public et que... Enfin, nous, on aime bien son approche des choses. Et puis, c'est vrai qu'il y a un certain... Les gens qui sont là sont des gens que nous, on côtoie depuis 40 ans sur des salons.
La plupart, ils sont déjà venus. Ils viennent chaque année, quasiment, non ? Est-ce qu'il y a des nouveaux et des personnes qui sont jamais venues ?
Il y a 30% de renouvellement.
Ah oui. Voilà. Et c'est des gens du coin, quand même, qui seront là ?
En gros, on va dire qu'on a le Finistère élargi, donc la frontière Côte d'Armor et puis le Morbihan.
D'accord.
Voilà, alors ça, je tiens à le dire parce que c'est important, parce que les gens peuvent croire qu'on n'est pas sympa avec eux quand on les sélectionne pas, mais on lance on a un fichier de 80 à 90 auteurs, on lance l'appel à candidature et on prévient que c'est les premiers qui vont répondre, qui seront sélectionnés. Après, il y a un petit arbitrage, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait que de la poésie, que du polar.
Oui, quand même, voilà, oui, donc, voilà, c'est ça. D'accord.
On va faire un petit mixte, mais globalement, c'est les premiers qui répondent, qui sont inscrits. Et cette année, en 4 jours, c'était fait.
Ah oui. Bah oui, mais parce que c'est la 5e édition quand même de ce salon qui commence à avoir une petite notoriété, je suppose.
Oui, c'est vrai, grâce à vous d'ailleurs.
Même si c'est tôt dans la saison, il n'y a peut-être pas encore beaucoup de tourisme, ça ne se passe pas pendant les vacances scolaires, hein, mais bon, c'est voilà. Et donc c'est des dédicaces uniquement ou il y a des petites conférences pour agrémenter ?
Non, la salle de Saint-Yves, la salle Saint-Yves est trop petite, on ne peut pas faire de conférences. On envisage de faire des lectures de textes, mais il va falloir qu'on s'organise et qu'on étoffe un peu notre équipe. C'est déjà très, très chargé pour tout le monde.
Très bien. Bon, alors, le 5e salon du livre de Camaret, il a lieu dimanche prochain, ce sera le 8 février. Il y aura 36 autrices et auteurs et ce sera la salle Saint-Yves dimanche, donc de 10h à 18h. Et puis, je rappelle le titre de ce livre paru aux éditions Serge Kergouat et qui est signé du photographe Raphaël Salzedo. Un très beau livre qui s'appelle Pierre, songe et rivage. Merci beaucoup, Serge.
Merci, Vernet.
Et à une prochaine.
Voilà.
Et on peut réécouter, bien sûr, cette émission et toutes les autres sur le site internet de Transistor.